France Musique. Les grands entretiens, Anne Montaron, France Musique.
Je m'appelle Bernard Cavana, je suis né à Nogent-sur-Marne le 6 novembre 1951 et j'essaie de m'inscrire dans cette grande aventure de la musique écrite.
Ô pays de mes pères, ô ma maison, que je ne perde pas ma patrie pour traverser le champ d'épreuves qui conduit à la mort.
Mourir en exil, jamais. Il n'y a pas pire peine que d'être sans patrie. Personne n'est avec toi à m'aider. Qu'il meure, l'ingrat, qu'il meure.
Bernard Cavana, on a évoqué pas mal de choses, vous étudiant, donnant déjà des cours, vous avez eu votre CAPES, vous avez donné des cours en collège, vous avez gagné votre vie comme accompagnateur au piano, un peu à l'orgue, bon. Et puis je crois que vous avez commencé à rencontrer l'univers du théâtre via Georges Aperghis, vous avez commencé à écrire des musiques pour le théâtre.
C'est grâce à Georges. Ah non, même avant, comme j'avais fait une pièce qui s'appelait Io, d'après un fragment du Prométhée d'Eschyle, il se trouvait que la voix de Haute-Contre, Alain Zepfel, connaissait un metteur en scène, Jean Gilibert, qui montait Médée à la Comédie Française. Et le musicien qui devait faire la musique, ça ne marchait pas avec eux, c'était pas du tout dans les rails de ce que souhaitait le metteur en scène. Donc ils m'ont demandé, voilà, il y a quelqu'un qui a travaillé sur une pièce grecque, peut-être que ça peut l'intéresser. J'ai rencontré Jean Gilibert, qui est un type formidable, étonnant, et j'ai fait la musique en une semaine, parce que c'était soit ça, ou soit la pièce était annulée, et ça avait des grosses conséquences, parce qu'elle était prévue à la cour d'honneur de Palais des Papes à Avignon, et puis il y avait 30 représentations à l'Odéon. Et il y avait Christine Fersen, et puis un chœur composé d'anciens élèves du conservatoire ou d'élèves du conservatoire. Et là, je me suis vraiment amusé à faire ce travail, même très rapide, mais qui m'a rapporté énormément d'argent. D'autant plus que la veille ou l'avant-veille de la première répétition, j'avais eu un huissier chez moi qui me demandait de l'argent, que j'avais reçu en pyjama. Moi, j'étais venu très tôt. Et voilà.
France Culture et la Comédie Française vous invitent à écouter Médée d'Euripide dans l'adaptation et la mise en scène de Jean Gilibert. Structure sonore Bachet. Musique électroacoustique de Pierre Beuswilwald. Musique de Bernard Cavana, interprétée par Michaela Etcheverry et François Boulanger aux percussions. Réalisation Georges Gravier.
Et c'est grâce à Io, alors que vous avez été connu dans le milieu musical, non? Ça a été une œuvre.
La création a eu lieu, s'est déroulée le jour du débat, le fameux débat Mitterrand-Giscard d'Estaing. Donc tout le monde était arrivé sur ses postes de télé, mais il y avait des personnes importantes dans ce concert, et notamment Betsy Jolas, qui m'a toujours soutenu, aidé, et est formidable, cette compositrice, que j'aime vraiment beaucoup. Ouais.
Il y a quelque chose d'éminemment dramatique dans le destin de Io et de Prométhée. Ce sont deux figures très proches.
C'est presque une œuvre liturgique, Io.
Ah oui.
D'après un texte qui ne l'est pas, contrairement à Mamès qui s'appuie sur une parole liturgique et qui est vraiment iconoclaste. Quoi. Mais oui, le personnage de Prométhée est représenté par les six voix. Les six voix de l'ensemble à Seyouchi, le chœur grec par le chœur, le madrigal de Paris, et le personnage de Io était à deux voix, représenté par une voix de Haute-Contre et une voix de Mezzo. Mais c'est une traversée, un questionnement de ce personnage qui est attaqué par l'environnement, par l'agression de la vie et qui se pose devant Prométhée. C'est uniquement cet échange que j'ai traité.
La Grèce d'un côté et puis le théâtre de l'autre. En tout cas, les deux marchent ensemble, évidemment. Et là, vous faites une rencontre très importante, Bernard Cavana, c'est celle de Georges Apergis. Comment est-ce que ça s'est passé?
Alors, c'était justement dans une répétition avec l'ensemble de Zadezem, Rachid Safir, Madrigal de Paris. Il y avait Georges Apergis qui était assis à côté de moi. On répète effectivement Yo. Et il m'a dit, ah mais ça c'est quelqu'un de ma bande. Mais j'ai trouvé ça, cette remarque adorable, alors que sa musique est vraiment une musique prospective, inventive, que je serais incapable de faire. Il ose énormément aussi de travailler. Lorsqu'il s'adresse à un interprète, il le pousse jusqu'à ses derniers tranchements, il le fait dépasser. Moi, non. Moi, je suis classique bien, par rapport à lui. Mais il m'a aidé beaucoup. D'une part, avec cette rencontre avec Diego Masson et l'ensemble Musique Vivante, qui était un formidable ensemble, hein. Peut-être le plus vivant avec celui de ce deuxième à l'époque, les plus novateurs. Et puis, il travaillait sur l'écharpe rouge, son opéra de 4 heures ou 5 heures peut-être. Donc il était pris, il ne pouvait plus travailler à Chaillot et il m'a demandé de le remplacer pour deux pièces avec Antoine Vitesse, le Héron d'Aksionov, qui est un dissident russe, et Tchekhov, qui est aussi dissident mais à sa manière. Voilà. Là, c'est aussi une grande école, c'est d'apprendre comment se construit le temps au théâtre avec un texte. Apparemment, il le joue pas au départ, il le lisent. Et puis, comment ça se construit, comment ça se charge.
Oui.
Le travail avec les acteurs, d'ailleurs, j'ai gardé des amis de cette période. Et comment ils travaillent sur scène, et aussi avec beaucoup de temps. Nous, le temps musical est toujours trop court. Il y avait 2 mois de répétition avec Vitesse, et peut-être plus pour ces deux pièces-là, parce qu'elles étaient montées en alternance. Et donc, voilà, ce fut un moment d'étude.
Je ne suis pas prête à te recevoir.
Si tu me tiens avec mesure, je connaîtrai tes charmes, Cypris.
Déesse, que ta flèche d'or, poison du désir, mes vies.
Je ne veux pas mourir d'amour. L'homme, je n'en veux pas. Je ne veux pas de guerre avec lui.
Antoine Vitesse, il était prof aussi au Conservatoire de Paris en théâtre. Et j'ai travaillé le journal de La Confession impudique. Confession impudique est un roman de Tanizaki, mais qui se présente sous la forme d'un journal à deux voix, celui de la journal de la femme, Ikuko, et du mari, qui ne s'appelle que le mari dans le bouquin. Et donc, il le faisait jouer par ses étudiants, et m'a donné l'idée de travailler ce texte pour l'opéra, parce que il y avait cette idée qu'on s'adressait à un confident imaginaire, qui était le public, mais qu'on projetait la voix. Finalement, le quatrième mur du théâtre était ôté et il y avait cette relation directe, comme un chanteur de variété. Il prend son public, il le regarde. Pas comme au théâtre où il y a 4 murs, dont un invisible. Et j'ai eu l'idée de travailler sur ce texte.
Alors peut-être qu'on pourrait évoquer maintenant, Bernard Cavana, votre relation au texte, puisqu'on parle de théâtre. Et la confession impudique, donc d'après la clé de Tanizaki, d'abord c'est pas n'importe quel texte, n'importe quel sujet non plus, puisqu'il s'agit quand même d'une mise à mort de son mari par abus, débat sexuel finalement. Hein.
Absolument, oui.
Une femme très gourmande, beaucoup plus jeune que son mari. On rappelle peut-être un peu l'histoire, l'intrigue de la clé de Tanizaki.
Oui, c'est une femme très bourgeoise, très dans les convenances, et un mari qui est lui excessif, qui est un professeur d'université, et qui a un amour fou de sa femme et surtout du corps de sa femme. Mais comme il est vieillissant, il use de stratagèmes, de voyeurisme au départ, ensuite des photos avec son Polaroid, mais après des photos avec un Zeiss Icon, mais il est obligé de faire développer. Et il prend son futur gendre comme complice pour développer. Et là, il saoule sa femme pour pouvoir la mettre dans des positions impossibles. Et tout cela est consigné dans un journal où il parlait d'habitude que des notes scientifiques. Mais à partir du moment où il parlait de ses relations avec sa femme, elle-même écrit un journal de son côté, tout en le dissimulant, ou soit en faussement le dissimuler. Et un jeu comme ça de tentative de communication, mais qui vire à l'incommunication. C'est un petit peu le grain de sable dans une machine qui va tout faire dérailler, mais c'est un processus très oriental, c'est très doux, très doux, oui. Très doux, très doux. Et finalement, le dénouement final, c'est que la femme va user le corps de son mari par des échanges très très ambitieux, pour aller finalement vivre sa relation avec le gendre. Et elle arrive à l'épuiser. Bien sûr, si on dit cette histoire comme ça, c'est un petit drame bourgeois qui n'a pas d'intérêt. Mais si on voit la trajectoire de ce personnage, surtout de la femme, qui est d'abord dans plein de principes, qui est plutôt soumise, et prendre l'ascendant sur un mari déclinant, c'est deux courbes comme ça qui s'opposent. Et Daniel Martin, l'auteur du livret, mais aussi de la première mise en scène, a fait en sorte justement de découper le texte en commençant l'histoire au dernier jour de l'histoire, en présentant donc cette femme en veuve et qui va raconter par divers flashbacks.
France Musique, les grands entretiens de Bernard Cavana.
J'étais à la Villa Médicis, on avait travaillé auparavant un an avec Daniel Martin, travaillé sur le texte, et je pensais le finir en un an, en deux ans. Et en un an, j'ai ne pu faire que la première scène, qui avait été créée par Diego Masson, et ça m'a pris sept ans avec des découragements où je voulais même arrêter ce métier parce que je n'y arrivais pas. C'était difficile parce que c'était un langage quotidien, il n'y a pas de coup de théâtre, il n'y a pas de cœur, il n'y a que simplement quatre personnages et le double des deux protagonistes, soit par des danseurs, soit par de montage vidéo. On peut dire que l'opéra est un genre suranné, datant, c'est le 19e florissant, mais ça reste quand même un outil magnifique parce que justement on peut donner plusieurs sens à une situation ou même à une phrase. C'est merveilleux, même si c'est daté.
Mais justement, quelle est votre relation, Bernard Cavana, à l'héritage? Vous avez écrit des concertos, deux concertos, oui, pour violon, un concerto pour accordéon, un double concerto aussi pour violon et violoncelle. Vous avez écrit des opéras, opéras de chambre. Donc, vous restez dans cette tradition.
Oui, c'est pour ça que je le dis des fois sous le ton de la boutade que je suis un compositeur du 19e. Je m'y inscris en tous les cas dans cette grande aventure de la musique écrite, hein, qui part de la notation de Saint-Gall, 9e siècle, 10e siècle, jusqu'à maintenant. Et moi, je suis venu à la musique par ça, par ces codes, et j'ai envie de m'y inscrire à ma façon, avec ce que je suis, dans cette si grande aventure, qui, à mon avis, va un jour disparaître. Et je renie pas les codes de cette aventure-là. Je comprends que les compositeurs ont eu cette velléité de rupture après la Deuxième Guerre mondiale. C'est frappant chez Lehrmann, par exemple, qui est né en 1935. Et en 1945, c'est Allemagne année zéro de Rossellini. On déterre les cadavres un peu partout. Stockhausen en parle très bien. Il a fait ce métier-là de déterrer des cadavres. Ils en avaient assez de cette bourgeoisie qui avait conduit à cette catastrophe. Et l'expression de cette bourgeoisie, c'est cette musique vibrée, Richard Strauss, malheur. Et donc, ils ont voulu faire table rase de ça. Et en France, c'était aussi très poussiéreux, avec les Chaillet, les Rabaud, les Piernet, Ibert. Et il fallait mettre un coup de pied là-dedans. Mais moi, j'ai pas vécu ça. J'ai vécu à la fois ces chambardements de la musique, avec Ligeti et autres. Mais j'ai une admiration profonde pour cette musique-là. Et j'ai envie, à ma manière, de continuer cette grande aventure. Mais, dans un même temps, ces objets que sont toutes les formes, le concerto, l'opéra, la symphonie, on peut les prendre aussi comme des objets surannés et qu'on va essayer un petit peu de casser. Concerto, par exemple, les deux maintenant pour violon, c'est l'individu et le groupe. C'est le groupe, l'orchestre n'est pas là pour magnifier le violon comme un concerto de Mendelssohn ou de Brahms, mais pour lutter contre. C'est l'individu, c'est un peu l'électron libre, et il va y avoir une lutte infinie. L'opéra, c'est un opéra où il n'y a pas de quatrième mur. Et ils ne chantent pas entre eux. À un moment donné, les personnages vont s'adresser au public comme un chanteur de variété. Et il va vouloir échanger avec lui-même s'il n'y aura pas de retour. Mais ça s'écarte aussi un petit peu du code. Mais et maintenant l'oratorio, parce qu'on pourrait dire aussi que j'ai fait un oratorio. Donc la messe commence par Kyrie eleison, Marie salope, avec tout ce qui se passe à l'intérieur. Ça ne peut pas dire qu'on est vraiment dans les canons. Et la JT du bocal, c'est aussi une chose très excessive, peut-être la plus excessive que j'ai pu commettre. Et une sorte de pamphlet sonore. Et
un bousin, vous l'avez.
Un bousin, oui. Une saloperie, en fait. Une saloperie. Et c'était vu comme tel par certains, d'ailleurs.
Pas cobra, pas cobra, dit pas cobra, dit. souhaite bien seul de mort.
Je ne demande pas mieux.
Mes rêves vous applaudir lorsque
vous serez en fin de venue.
Vraiment seul que vous aurez payé.
La composition doit avoir l'ambition de voler le temps à l'auditeur. Mmh. C'est peut-être cette sublime agression, c'est lui piquer son temps. Et lui, il vient avec tous ses problèmes, il s'assoit, peut-être que son chien s'est fait écraser, qu'il a des problèmes avec le fisc, et on doit avec sa musique le prendre et lui essayer de lui raconter une histoire. Dans mes pièces, c'est toujours narratif. On part d'un endroit et on le conduit à l'autre. Il n'y a pas de complaisance dans le son. On peut des fois se complaire dans le son, beaucoup de musiques qui s'établissent comme ça, comme Steve Reich par exemple, même dans beaucoup de musique spectrale, on est là-dedans et les événements, on filtre, on s'amuse, on prend le curseur, on le lève. Et c'est plus la notion de hauteur d'intervalle qui est le premier des paramètres, c'est d'autres paramètres formidable aussi. Moi, je suis encore plus traditionnel de ça. Je garde la puissance encore de l'intervalle. Alors, c'est plus compliqué parce que il faut bien sûr raisonner avec cette syntaxe. Plus les musiques sont écrites avec des hauteurs et moins dans le timbre et le son, plus elles sont difficiles.
Donc, souvent des débuts très forts comme ça qui vous saisissent et au contraire des fins d'œuvre. Pianissimo,
exactement.
Comme si on sortait d'un rêve, là.
Ou d'un cauchemar,
souvent.
Oui, c'est un peu l'image du cachet de l'aspirine dans l'eau. À la fin, on a l'impression qu'il est complètement dissous, mais si on porte le verre à l'oreille, on a l'impression qu'il y a encore des choses qui existent. Voilà. Et puis, c'est notre cheminement à tous.
Les dernières mesures de « À l'agité du bocal », Bouzin pour trois ténors dépareillés et ensemble de foire de Bernard Cavana dans la version de l'ensemble Ars Nova dirigé par Philippe Naon. Retrouvez la programmation de ces grands entretiens de Bernard Cavana sur nos pages de site. Réalisation Christine Amado et Claude Niort avec Sébastien Royer, Marie Chauveau et Flora Sternadel. La suite de ce portrait de Bernard Cavana demain, podcast et réécoute sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.